que tout le monde m'entend, ça va? Ouais, je sais, il y en a qui font des signes au fond de la salle, comme quoi j'ai pas de micro-cravate. Il n'y en a pas besoin. Si vous m'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas assez silencieux ou attentif. Sinon, en général, ma voix porte assez bien. Au cours de cette semaine, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé ou en tout cas qui m'ont fait réfléchir. Et je souhaite en partager quelques-unes avec vous, déjà en introduction, et on y reviendra. Il y a notamment, assez loin de chez nous, donc c'est-à-dire à l'autre bout du monde, il y a une phrase qui a été prononcée: « Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel et le monde a changé. » Alors, ça faisait directement relation à ce qui s'est passé un 6 août 45, et donc avec la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima. Et donc des gens, lors d'un passage, du sommet du G7 là-bas au Japon, des gens ont fait en sorte que ce moment ne tombe pas dans l'oubli. Ils souhaitent éveiller la mémoire pour que cette bombe qui a tué sur le coup plus de 75 000 personnes, les événements qui ont suivi, eh bien, ne soient pas perdus par l'histoire. Eh oui, on nous parle là de 183 000 victimes de l'atome reconnues, dont l'âge moyen en 2016 est de 80 ans, et ils s'éteignent peu à peu. Et avec eux, nous dit-on, s'évanouit la mémoire vive de ce qu'ils ont vécu. Elle se transmet, mais pour les plus jeunes, le bombardement relève de l'histoire. Donc on a l'impression qu'au cours des années qui passent, le souvenir s'amenuise. L'histoire se dilue, il y a une certaine érosion. À une toute autre échelle, nous commémorons aussi certaines choses, avec des dates importantes dans notre calendrier. Nous commémorons même certaines choses, je ne sais pas si vous connaissez l'article 1, 2 et 3 d'une certaine loi. Non, ce n'est pas la loi travail que je parle, mais celle du 24 mai 1950, qui dispose que la République française rend hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères. Et l'article 2, que vous devriez connaître, ne pose aucun problème puisqu'il définit la date précise de cet événement. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on met en place pour se souvenir, et même si cette fête des mères et la fête des pères qui suit sont devenues souvent des opportunités très commerciales, ces événements perdurent un peu pour nous rappeler, pour reconnaître le rôle joué par toutes les mamans. Donc voilà des choses qui sont dans l'histoire, des souvenirs qu'on cherche à faire perdurer, des choses que l'on cherche à honorer et qui sont importantes ou qui avaient à ce moment-là une importance. Alors j'aimerais vous lire un passage maintenant dans la Bible qui me fait d'autant plus réfléchir suite à tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent. Nous allons lire dans Juges 2 à partir du verset 6. Juges 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Là, il nous est parlé de la mort de Josué, un des leaders du peuple d'Israël. Donc, Juges 2, verset 6. « Après que Josué eut congédié l'assemblée, les Israélites se rendirent chacun dans la part de terre qui lui revenait et occupèrent ainsi le pays. » Ils servirent le Seigneur durant la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les anciens qui avaient vu les grandes œuvres accomplies par le Seigneur en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Puis les gens de sa génération moururent à leur tour. la génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît au Seigneur et se mirent à adorer les dieux Baal. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baal et les Astartés. On a là l'histoire du peuple d'Israël, donc, qui suit immédiatement la mort de Josué, et où on voit finalement le peuple qui se met à abandonner le Seigneur. Et les versets clés, clairement, ou le verset clé me semble dans ce passage le verset 10. Le verset 10 qui nous dit « Puis les gens de sa génération moururent à leur tour ». La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors on pourrait passer maintenant pas mal de messages, d'heures à partager les grandes œuvres que Dieu avait accomplies en faveur d'Israël. Il nous est parlé ici de la sortie d'Égypte. Mais juste au moment de la vie et du leadership de Josué, ils ont traversé le Jourdain, il y a eu la conquête de Jéricho, ils ont pu occuper toute la terre promise, le pays que Dieu leur avait donné. Mais, nous est-il dit, toutes ces actions se sont perdues au cours du temps, dans la mémoire du peuple d'Israël. Ils ont oublié. On ne peut pas se l'imaginer. Comment oublier qu'à un moment donné, Dieu a ouvert la mer morte devant eux pour qu'ils traversent ? La même chose, un petit rappel avec le Jourdain. Des choses comme ça. Aujourd'hui, ça nous semblerait impossible à oublier. Nous, si on avait été à leur place, bien sûr que non, on n'aurait pas oublié. La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Le peuple d'Israël devait, et c'était d'ailleurs un commandement que l'Éternel leur avait donné, il devait justement se rappeler tout ce que l'Éternel avait fait. Et dans Deutéronome 6, les 9 premiers versets, le rappelait au peuple d'Israël. On va lire ces premiers versets du chapitre 6 de Deutéronome. Parce que c'était justement en préalable à l'entrée d'Israël dans le pays que Dieu leur donnait pour possession. Donc au chapitre 6 de Deutéronome, il nous est dit là au verset 1, « Voici les commandements, les lois, les règles que le Seigneur, votre Dieu, m'a ordonné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. » Donc Dieu leur donne là le mode d'emploi. Verset 2, « Vous apprendrez ainsi tout au long de votre existence à respecter le Seigneur, votre Dieu, à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y trouverez le bonheur et vous deviendrez un peuple nombreux dans ce pays qui regorge de lait et de miel, comme vous l'a promis le Seigneur Dieu de vos ancêtres. » Le Seigneur Dieu de vos ancêtres, pardon. Verset 4, « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Voilà des instructions claires de la part de Dieu qui disait justement à son peuple, voilà ce que tu dois faire. Il y a des commandements qui sont directement liés avec ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois te les rappeler. Et tu dois les transmettre à la génération future. Tu ne dois pas les oublier. Ils devaient donc passer le relais. Passer le relais à une génération qui montait. Moïse avait passé le relais à Josué pour amener le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et Josué, on voit qu'il prend ce relais, il est bouillant pour Dieu. Il est vraiment bouillant pour Dieu. Et il dit même au peuple d'Israël, quand on lit Josué 24, verset 15, il dit, mais si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte, par exemple ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays, mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Donc Josué partait en étant bouillant pour le Seigneur. Et après Josué, il y avait encore quelques anciens qui perduraient. Josué meurt, il est enterré, et il nous est dit, Juge 2, verset 10, « Puis les gens de sa génération moururent à leur tour, et toc, la génération suivante, qu'est-il dit ? La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. » On a là le zèle de Josué qui fait place à une certaine religiosité, peut-être pendant un moment, ensuite une indifférence et même un mépris de Dieu. Tout cela en une génération. Pourquoi ? Parce que le relais n'a pas été transmis de façon sérieuse. Josué qui était saint, nous passons à quelques personnes qui étaient religieuses, d'autres qui deviennent apathiques, indifférentes au message de Dieu, et finalement ça termine avec une génération qui est loin de Dieu. Ça fait réfléchir. Rapidement. Il n'y a pas besoin de plusieurs générations. Et alors, je ne vais pas vous donner trop de détails là-dessus, mais j'ai commencé à m'intéresser aussi à certaines fondations. Vous savez, des fondations qui sont reconnues, par exemple, d'utilité publique aujourd'hui. Et vous allez regarder un petit peu leur point de départ de certaines de ces fondations qui ont été créées notamment par des chrétiens convaincus, qui ont lancé une certaine action pour, par exemple, accueillir certaines personnes paumées ou pauvres, aussi bien qu'ils disent leur maître les avait accueillis eux. Leur maître, donc Jésus-Christ, les avait accueillis. Et donc, ils démarraient une action bouillant pour le Seigneur. Ils ont cherché à transmettre cela. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui reste de ces fondations, en général, c'est juste. Enfin, juste, c'est quand même un beau travail, mais c'est l'aspect social. Mais toute la transmission spirituelle qui, en général, allait avec et était vraiment la base, le point de départ, le petit germe, l'étincelle qui avait fait démarrer ce travail, tout cela s'est perdu au cours du temps. Regardez des fondations ou même des églises. Regardez l'église 100 ans avant aujourd'hui. Alors ici, on ne peut pas encore parler de 100 ans, mais dans quelques semaines, on va remercier le Seigneur pour les 50 ans qu'il a donnés. Mais regardons le point d'origine et regardons la situation aujourd'hui. Cherchons à faire vraiment un état des lieux, un point où en sommes-nous dans ce passage de relais que Dieu nous demande de faire génération après génération. Sommes-nous restés au point où nous sommes encore zélés, où nous sommes saints, tout comme Josué ? Est-ce que nous sommes arrivés à un point où c'est plus que de la religiosité ? Est-ce que nous sommes apathiques, indifférents ? Est-ce que nous sommes déjà, ou certains sont déjà loin de Dieu ? Sommes-nous arrivés à un point où le psalmiste, à un moment donné, s'exclame dans le psaume 12 au verset 2, « Seigneur, et je le lis en français courant, Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition, il n'y a plus de gens dignes de confiance. » Alors le texte que nous avons lu dans Juges, je souhaite le prolonger par un autre texte qui est donné aussi dans le psaume 78. Avant de lire ce texte dans le psaume 78, juste pour vous citer quelque chose. Pour les plus anciens d'entre nous, peut-être, moi je me rappelle enfant, comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, je me rappelle enfant avoir été à des réunions de prière où toute l'assemblée était à genoux devant le Seigneur, pendant des réunions de prière. Par signe de respect pour Dieu. Mais en réfléchissant là-dessus, mais je me demande aujourd'hui, je ne veux pas minimiser nos actions dans nos réunions de prière, simplement éveiller notre attention sur le fait, mais comment nous présentons-nous devant Dieu ? Est-ce que nous avons la même image de Dieu que nos ancêtres, simplement même que nos parents ? Est-ce que nous la même image de Dieu, je pense, au niveau de sa sainteté, de ce qu'il représente vraiment, de ce qu'il est vraiment. Où sommes-nous déjà, et je me pose à moi le premier la question, sommes-nous déjà dans une certaine tendance à partir vers une certaine religiosité ? Lisons le psaume 78, versets 1 à 8. Qui nous parle du passé d'Israël et d'une leçon à ne pas oublier. Il est dit là, « Mon peuple, écoute bien mes instructions, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole, dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous en ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur. » Sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait, d'observer ses commandements. Alors ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'avaient pas respecté l'engagement qui les liait à Dieu. Ils avaient refusé de suivre sa loi. Ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il leur avait fait voir. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, je relis le verset 4, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur. Sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Quelque chose de tout à fait clé. Si nous ne voulons pas que nous partions dans une simple religiosité, si nous ne voulons pas que finalement les nouvelles générations tombent dans une certaine indifférence ou apathie, nous avons besoin de répéter toujours à nouveau ce que le Seigneur a fait. Ce qu'il a fait pour nous, mais ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui pour chacun. Que voulons-nous pour nos enfants ? Que voulons-nous pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants peut-être pour certains ou certaines, pour nos neveux, nos nièces, nos filleuls, les enfants que nous connaissons, avec qui nous avons des contacts ? Que voulons-nous en tant qu'Église pour nos jeunes, pour les enfants qui sont à la découverte de la Bible, pour les adolescents ? Est-ce que nous voulons vraiment leur raconter nous-mêmes ce que Dieu a fait ? Ou alors est-ce que nous laissons simplement, est-ce que nous déléguons confortablement notre rôle de parents à l'Église, à ceux et celles qui les enseignent ou qui pourraient les enseigner le dimanche matin ou le samedi ou à d'autres moments ? Que savent nos enfants de notre expérience avec Dieu, de notre vie avec le Seigneur? Une petite citation que j'ai trouvée dans un calendrier cette semaine qui disait « Ils ne connaîtront plus le Seigneur, en parlant des générations à venir, ils ne connaîtront plus le Seigneur parce que sous prétexte de ne rien imposer, nous ne leur aurons rien dit au sujet de la foi nécessaire et de leur sort éternel. » Donc la question se pose clairement, que voulons-nous? Cherchons-nous la volonté de Dieu pour nos enfants? Savons-nous quelle est la volonté de Dieu pour nos enfants? Savons-nous quelle est la volonté de Dieu pour nous? Oh, c'est pas très difficile. Il y a deux choses relativement simples, parce que la question de la volonté de Dieu se pose à beaucoup de moments au cours de notre existence, ou de chacune de nos vies. La volonté de Dieu est relativement simple, peut-être trop simple pour que nous cherchions à la mettre en pratique. La première chose, c'est donnée dans 2 Pierre 3, verset 9. Dans 2 Pierre 3, verset 9, c'est clair, la première chose que Dieu veut de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, et donc de chacun de nos enfants, des jeunes, des adolescents qui sont ici. 2 Pierre 3, verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. » Ou dans d'autres traductions, il est dit « Voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc ça, c'est très clair. Première chose, c'est le salut. Le salut. Le salut de votre âme, de ton âme. Que tu puisses reconnaître Dieu en tant que Seigneur, en tant que Sauveur et en tant que Seigneur. Et donc, ce n'est pas étonnant que Dieu ne va pas, entre guillemets, nous lâcher avec cette question du salut tout au cours de notre vie. Combien de fois, moi je dois dire, ayant grandi dans une famille chrétienne, combien de fois Dieu m'a appelé au cours de ma jeunesse, à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, je capitule devant lui. Donc ce n'est pas étonnant, en tant que jeune, ici, ou enfant, ou jeune adulte, si tu ne t'es pas encore décidé pour le Seigneur, qu'à un moment régulier, tu te retrouves confronté et le Seigneur t'appelle. Parce que justement, c'est le moment. Dieu ne te lâchera pas. Il va envoyer des personnes sur ton chemin tout au cours de ton existence pour que tu capitules devant lui et pour que tu puisses arriver à la repentance. Donc la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est très claire. Première chose, le salut. Et je dirais... Après, il y a une deuxième chose qui est nécessaire et suffisante, c'est la sanctification. Éphésiens 5, versets 17 et 18, il nous est dit là, « Ne soyez donc pas déraisonnables, efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous, n'enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint, soyez remplis de l'Esprit Saint. » Romains 8, versets 9 et 10, « Vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque là, l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. » Deux choses simples. Le salut, la sanctification. Alors, on a l'impression, la fausse impression souvent, que le problème, c'est que le Seigneur, parce que c'est difficile de vivre cette vie ici-bas, c'est pas possible, on a l'impression de ne pas arriver. Alors, le salut pour un plus grand nombre d'entre nous ce matin, je pense que c'est une question réglée, mais après, vivre une vie sanctifiée, remplie du Saint-Esprit, nous est-il dit là? On a l'impression que le problème, c'est du côté du Seigneur, qu'il devrait nous donner encore beaucoup plus de choses que nous en avons. Je ne pense pas. Il est parlé là d'être rempli de l'Esprit Saint. Éphésiens 5, 17 et 18. On n'a pas besoin de courir les rues et d'aller à gauche à droite pour recevoir le Saint-Esprit. Que nous dit la parole ? 1 Corinthiens 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. » Si nous appartenons au Seigneur, Dieu nous a déjà donné son Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Ça, c'est une première chose. Mais on pourrait dire, peut-être qu'on demande beaucoup d'autres choses au Seigneur. « Seigneur, moi, pas possible, sanctifié, il faudrait que j'aille plus d'amour pour les autres. Donne-moi plus d'amour. » Ce qui est impressionnant, c'est que Dieu nous a déjà répondu. On ne le sait même pas, peut-être. Romains 5, 5, il est dit « Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Si Dieu nous a donné son amour, il n'y a pas besoin de demander pour plus d'amour, il suffit d'y aller, mettre en pratique. Ah Seigneur, j'ai peut-être besoin de plus de grâce. 2 Corinthiens 12, verset 9. Que nous a-t-il dit ? Dieu a répondu à Paul, et Paul dit là, « Il m'a répondu, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. » Là aussi, Dieu a déjà répondu. Ah, je suis faible, j'ai besoin de plus de force. On se sent tous faibles. Seigneur, donne-moi plus de force. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas moi qui ai besoin de plus de force. Puisque Dieu nous fortifie, c'est lui qui va agir en nous. Ah, Seigneur, je ne sais pas où je vais pour l'avenir. J'ai besoin d'être guidé. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Et on pourrait continuer. Finalement, on s'aperçoit que on a souvent tendance, nous, à nous présenter devant Dieu et à demander à Dieu, mais Seigneur, donne-moi parce que ça ne va pas. Et la Bible nous dit, mais stop, tu as déjà. Dieu a déjà tout donné. Nous avons tout. Nous avons tout. 2 Pierre 1, verset 3. C'est assez incroyable. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, là, il ne nous dit pas pour vivre et faire de grandes choses. Qu'est-ce qu'il nous est demandé ? De vivre dans l'attachement à Dieu. Colossiens 2, 10 nous dit aussi « C'est par lui, donc par Jésus-Christ, que vous avez tout reçu pleinement. Lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. » Et donc, si on va un petit peu plus loin dans notre réflexion, finalement, on peut peut-être mettre le doigt sur le problème, notre problème, ou mon problème. C'est la question de l'attachement à Dieu. Ce qui revient finalement à ce qu'on a vu dans ces générations ou cette génération d'Israélites, qui, alors que Josué devait passer le relais, eh bien, ce relais d'attachement à Dieu s'est mal fait, n'a pas été fait de façon convenable. Et alors, je me suis mis à réfléchir et à parcourir un petit peu la vie de Pierre. Et on ne va pas tout reprendre de la vie de Pierre ce matin, mais je vous encourage à parcourir tout le Nouveau Testament quand il est parlé de Pierre, et d'étudier un petit peu sa vie en détail. Et vous essayez de classifier la vie de Pierre et chaque événement de la vie de Pierre et de noter dans la vie de Pierre, lorsqu'il était près du Seigneur et lorsqu'il était loin du Seigneur. Et vous regardez quelles sont les conséquences directes et indirectes, ou que s'est-il passé à ce moment-là dans la vie de Pierre. Près du Seigneur, loin du Seigneur. Et on peut maintenant commencer à voir, il y a un moment, près du Seigneur, pêche miraculeuse. D'accord ? Près du Seigneur, il marche sur l'eau. Après, à un moment, il commence à douter de la puissance du Seigneur, mais bon. Près du Seigneur, il se lance d'un seul coup devant des soldats pour protéger Jésus, quitte à tirer son épée et puis à partir dans tous les sens. Loin du Seigneur, ça commence à devenir raté sur raté. Si on étudie un petit peu, il renie le Seigneur 3 fois quand il le suivait de loin. Donc un problème d'attachement au Seigneur. Après, une fois que le Seigneur est monté au ciel, donc il n'y avait plus de proximité physique, Jésus avait quand même laissé le Consolateur. Donc Pierre, rempli du Saint-Esprit, était près du Seigneur, puisque Jésus leur avait envoyé le Consolateur. Et là, que fait-il, Pierre, près du Seigneur, devant toute la foule le jour de la Pentecôte ? Ah, ça y va, là. Ça, c'est un message qui lui a valu le coup d'écouter. Il s'adresse à toute cette foule et il témoigne de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, prenez le temps d'étudier cette vie de Pierre, parce que je pense que ça peut nous parler aussi aujourd'hui. Il ne s'agit pas maintenant pour nous d'acquérir toujours plus de choses au niveau spirituel. Oui, c'est bien de croître spirituellement. Mais Dieu nous a déjà tout donné. Il faut maintenant mettre en pratique. Nous devons nous souvenir. Nous souvenir de ce que nous sommes. Nous souvenir de ce que nous sommes, alors il y a un beau passage qui nous alerte là-dessus, c'est Éphésiens 2. Éphésiens 2 au verset 11, ça commence par « Rappelez-vous de ce que vous étiez autrefois. » Rappelez-vous de ce que vous étiez autrefois. Et Paul s'adresse là à des chrétiens. Vous n'êtes pas juifs de naissance, les juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ. On met ça en parallèle avec la vie de Pierre. Loin du Christ. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la catastrophe. Loin du Christ, il nous a dit, vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, au verset 13 d'Éphésiens 2, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Jésus-Christ qui meurt sur la croix nous rapproche. C'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des juifs et des non-juifs un seul peuple. Par sa mort sur la croix, au verset 16, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Donc Jésus-Christ nous rapproche et nous réconcilie avec Dieu et nous rapproche aussi de Dieu. Et c'est par le Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit, nous a dit au verset 18. Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes près de Dieu si vous appartenez à la famille de Dieu, si vous avez fait ce pas. Combien c'est réconfortant. Ça veut dire qu'on peut vivre exactement ce que Pierre vivait quand il était près de Dieu. Alors se souvenir de qui nous sommes, mais se souvenir aussi, finalement, d'où nous venons, au point de vue de l'histoire, au point de vue de nos ascendants, notamment aussi au niveau spirituel. J'aimerais citer là Hébreux 13, versets 7 et 8, où il nous est dit, je lis en français courant, « Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. » Imitez leur foi. Si dans les différentes églises ou si dans les différentes œuvres chrétiennes, eh bien, ceux qui ont suivi ces grands fondateurs avaient continué à imiter la foi de ces fondateurs, je pense que certaines œuvres chrétiennes n'en seraient pas où elles sont, en sont aujourd'hui. Elles continueraient certes à faire du social, mais elles apporteraient aussi en même temps un aspect spirituel conséquent et nécessaire. Souviens-toi. Souviens-toi donc, ou souvenons-nous de ce que nous sommes, de nos guides spirituels aussi. Dans 2 Timothée 2, verset 8, il est dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ça, c'est aussi très important. Ça fait comme le peuple d'Israël qui devait vraiment se souvenir toujours et toujours. Là aussi, nous avons besoin de nous souvenir « Souviens-toi de Jésus-Christ », de Timothée 2, 8, « Descendant de David, ramené d'entre les morts, ressuscité donc ». La résurrection du Seigneur, on a besoin de se la rappeler. Sinon, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et Paul disait, c'est pour cette bonne nouvelle que je souffre, que je suis même enchaîné comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Souvenons-nous. Alors, des fois on lit avec admiration, avec peut-être une certaine envie, avec une nostalgie peut-être, des biographies de chrétiens du temps passé. Tout à l'heure, Moïse nous a cité George Muller. On pourrait parler d'autres, Hudson Taylor, Jim Elliot, Spurgeon, et bien d'autres, des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui sont venues. Et c'est vrai, dans Hébreux, il nous est dit, justement, mais souvenez-vous d'eux. Donc, étudions. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. Donc, il nous est dit, mais oui. Prenons exemple sur eux. Puis on se dit, oui, mais je ne peux pas prendre exemple sur eux. Je leur arrive même pas à la cheville. J'ai l'impression qu'il me manque beaucoup trop de choses. Qu'avons-nous vu ensemble ce matin? Dieu nous a tout donné. Et puis il y a une chose très particulière, c'est que souvent on se rappelle Hébreux 13, verset 7. Donc on se souvient de ces grands dirigeants, de ces hommes de foi, de ces géants de la foi. Et puis on ne lit pas le verset 8. Vous savez ce que c'est le verset 8? Le verset 8 va directement avec le verset 7. Essentiel. Il nous est dit là, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà sur quoi nous pouvons nous appuyer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est le même Jésus, le même Dieu qui a conduit George Muller à fonder tous ces orphelinats. Le même Dieu qui a conduit Jim Elliot à mourir au fin fond de la forêt tropicale en Amazonie. Le même Dieu, le même Jésus encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors si Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant, s'il nous interpelle aujourd'hui en nous disant « Mais la vraie question, c'est l'attachement que vous avez pour moi. Ce qu'il faut qu'on retienne, et ce que je veux vous laisser comme dernière phrase, c'est que Dieu peut faire pour nous aujourd'hui ce qu'il a fait pour eux hier. Dieu peut faire pour nous aujourd'hui ce qu'il a fait pour eux. Ça, il n'y a aucun doute. Dieu peut le faire. Simplement, c'est nous. Voulons-nous aller de l'avant? Voulons-nous transmettre à nos enfants, petits-enfants, à ceux qui nous entourent, ce merveilleux message, ces œuvres de Dieu qui sont vraiment formidables? Ayons l'assurance vraiment que ce qu'ont réalisé ces géants de la foi, eh bien, Dieu peut faire pour nous ce qu'il a fait pour eux. Le problème est où? On l'a vu, comme avec Pierre. L'attachement à Dieu. Donc que Dieu nous aide à vraiment rester attachés à lui et à faire une transmission de relais, déjà être zélé comme Josué, et faire une transmission de relais qui dure et perdure de façon efficace. La durabilité de l'évangile au cours des siècles, c'est ce que nous voulons, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen.